La Grafeuille, pardon, merci de répondre aux questions de Radio Campus. Je voulais vous demander, vous êtes trentenaire?
C'est marrant comme première question. Pourquoi cette question?
Ben, cette question, parce que Match est une histoire dans laquelle vous allez me raconter un tout petit peu l'histoire sans la déflorer, parce que c'est au spectateur de la découvrir. Au champ de foire ce jeudi à 20h, bien sûr. Bon, parce que vous parlez, cette femme qui va se remémorer ses 10 ans, elle a 10 ans, elle a 20 ans, elle a 30 ans, et ça s'arrête. Donc c'est pour ça que je vous pose la question.
Ah, je comprends. Alors, ça s'arrête parce que le point de départ, Match, ça parle beaucoup des sites de rencontres.
Oui.
Et parce que à 30 ans, elle s'inscrit sur le site de rencontres Mythique. Donc en fait, ça s'arrête là où ça commence.
D'accord.
Et après, elle va avoir 30 ans, elle va avoir 10 ans, elle va avoir 20 ans, elle va avoir 30 ans, et elle va avoir 40 ans.
D'accord. Et comme j'ai vu que dans vos explications, vous nous disiez que pour le théâtre c'était important, mais que pour ce faire, vous aviez créé un double mois, un mois de théâtre et puis un autre mois, je me permettais de poser la question.
Oui. Bah, en fait, moi, ce que j'écris, ça s'appelle de l'autofiction.
D'accord.
C'est-à-dire que j'écris à partir d'expériences vécues,
oui,
dans une forme qui est fictionnée. Donc forcément, les spectacles sont très inspirés de mes propres expériences, et ce double moi, il est très proche de mon moi, mais c'est un moi de théâtre, donc forcément, c'est moi et c'est pas moi. Voilà. Donc je travaille beaucoup sur le vrai et le faux.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où au théâtre, on s'aperçoit que plus on met en scène le rêve, plus on est proche de la réalité, l'autofiction est un mot qui s'est imposé un petit peu clairement. Bon, d'autre part, vous avez toujours été intéressé par la musique.
Oui, j'ai toujours travaillé avec de la musique dans mes spectacles, la musique live, je veux dire.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que la musique, c'est de l'émotion directe. Ça passe pas forcément par de l'intelligence. Donc, je travaille avec un musicien, compositeur, chanteur qui s'appelle Sébastien Chadelot, qui compose, qui crée les musiques des spectacles et les joue live. Et là, pour Match, c'est un peu particulier parce que la musique était intégrée dès l'écriture, c'est-à-dire que j'ai voulu travailler à partir de chansons d'amour populaires,
ouais,
qui font partie de l'histoire, parce que moi déjà, je viens de la culture populaire et je trouve que c'est une culture intéressante qu'on voit pas forcément beaucoup au théâtre,
ouais,
et que ces chansons d'amour là que tout le monde connaît, en fait, elles sont enrobées de pas mal de kitsch, et que souvent, on n'a jamais vraiment écouté les paroles. Sauf que quand on écoute les paroles, en fait, ces chansons-là racontent ce qu'on vit tous et toutes. Et donc, dans ce spectacle, Match, il y a deux personnages. Il y a cette femme qui vient raconter l'histoire de sa vie amoureuse, et puis il y a un chanteur de bal qui fait son métier, c'est-à-dire que même s'ils sont plus que deux dans cette fête, bah lui va continuer à faire son boulot, il va donc chanter ses chansons.
D'accord.
On va entendre différemment qu'on a l'habitude de les entendre, en fait. C'est-à-dire que pour la première fois, on va peut-être entendre vraiment ce qu'elle raconte.
D'accord. Bon, de toute façon, vous êtes une fanatique, une adepte de Marguerite Duras, puisque vous avez choisi une très belle phrase. J'ai eu le plaisir de rencontrer il y a fort longtemps Marguerite Duras. On avait beaucoup parlé de musique. La musique, c'est la plus haute instance de la pensée à son stade archaïque. Et ça, c'est très intéressant. Alors effectivement, l'autofiction, c'est un petit peu le moyen de dépasser le stade archaïque grâce à la musique et aussi aux paroles. C'est vous qui parlez tout le temps dans cette pièce.
Oui, alors moi, je parle avec le texte, on va dire. Et puis, ce chanteur de bal, bah, lui aussi, il parle avec ses chansons. Et ce que j'avais pas prévu à l'époque. En fait, ces chansons-là parlent de l'héroïne, mais parlent aussi de ce chanteur.
D'accord.
Donc, il y a vraiment deux solitudes, en fait, en présence.
D'accord. Bon, il y a donc Sébastien Chadelot, et puis il y a la collaboration artistique d'Alexandre Doublet. Vous êtes une belle équipe. Il y a un assistant à la mise en scène qui est Aurélie Bidot.
Uh-huh.
La lumière, c'est William Lambert. Scénographie et costume, c'est Clémence Casimi. Elle a fait quoi? Elle a fait une robe de mariée?
Ah, alors, elle a fait pas mal de choses. On est passé par plein de choses. Alors, d'accord. Il y a une robe de mariée, effectivement. Il y a le costume du chanteur de bal.
Oui.
Et pour moi, elle a trouvé ce qui est carrément un costume accessoire personnage, c'est-à-dire que c'est un jupon traditionnel de danseuse de flamenco.
D'accord.
Qui est assez extraordinaire parce que ce jupon, il joue un peu tout seul, tellement il est incroyable. Donc voilà, ça c'est un super outil de travail, quoi.
D'accord. Alors, en termes de décor, match, puisque ça s'appelle match, et puis je vais vous demander pourquoi vous avez appelé ça, cette pièce match, mm-hmm. Ça se passe dans une salle des fêtes?
Oui, ça se passe dans une salle des fêtes de village.
Oui.
On peut imaginer qu'il y a eu une fête ou un bal du 14 juillet, par exemple. Mais
d'accord.
Tout le monde est parti.
D'accord.
Il reste plus que cette femme et ce chanteur de bal. Donc, c'est toute l'iconographie des salles des fêtes. Je voulais aussi convoquer, moi j'avais une image très forte comme ça des bals du 14 juillet dans le village en Corrèze. C'est le point de départ d'histoire en fait. L'héroïne elle raconte ça, elle raconte le bal du 14 juillet quand elle est petite et qu'elle imagine sa vie de quand elle sera grande et que sa vie elle pense que ça sera comme celle de ses parents, c'est-à-dire un mari, un jardin, deux enfants et qu'elle sera institutrice. Bon, il se trouve qu'à 30 ans elle se rend compte que c'est pas ça sa vie. Mais d'accord. Donc cet imaginaire du bal du 14 juillet, j'avais aussi une image des personnes qui, bah, il y a ceux qui dansent et puis il y a ceux qui dansent pas et qui sont tout seuls sur le côté.
Oui, alors.
Et voilà, j'avais envie de convoquer ça.
Sur votre scène, sur la scène de match, il y a un plateau qui, comme dans toutes les salles des fêtes traditionnelles, est un petit peu trop haut par rapport aux spectateurs ordinaires de théâtre. Et puis il y a des chaises.
Oui.
Et ces chaises. Ces chaises n'accueillent personne, c'est une rencontre, votre système scénique, c'est une rencontre frontale. Vous êtes sur le plateau et le public est dans la salle ou le public est à côté de vous sur ces chaises?
Non, le public est dans la salle.
D'accord.
Il n'y a pas de quatrième mur, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire que tout est adressé au public.
Bien sûr. Alors pourquoi cette histoire, dont le sous-titre est quand même très, très important, puisque il s'agit de autofiction sur l'amour à l'ère du numérique. Pourquoi est-ce que ça s'appelle match? Parce que vous considérez que les rencontres amoureuses sont des matchs?
Alors, ça s'appelle match d'abord parce que sur l'application Tinder, qui est une des applications de rencontres les plus utilisées au monde, il y a un système qui est que, donc sur l'écran de son téléphone, on voit défiler des photos.
Oui.
Si la personne nous intéresse avec le doigt, on envoie la photo à droite.
Ouais.
Et si elle ne nous intéresse pas, on l'envoie à gauche. Et il faut que la personne de l'autre côté qui a publié sa photo fasse la même chose avec nous. C'est-à-dire que pour pouvoir discuter, il faut que les deux aient envoyé la photo à droite. Et si les deux ont envoyé la photo à droite, là, s'affiche, clignote sur l'écran, match. On dit qu'il y a un match, comme quand on dit ça match, on a matché ensemble, c'est même rentré dans le langage courant en fait. Quand deux personnes s'entendent bien, on dit ça match. Donc d'abord c'est pour ça qu'il y a le point d'exclamation aussi, parce que il y a ce mot là qui clignote avec ce point d'exclamation, donc on a l'impression d'avoir gagné le gros lot en fait. Hein. Et puis comme vous dites, le double sens m'intéressait avec le côté match plus de sportif de la bagarre quoi.
Ouais.
Parce que forcément, derrière ça, il y a aussi une dimension sociale, sociologique, de se bagarrer pour trouver un partenaire, en fait. Il y a de la concurrence, il y a tout ça. Donc voilà, donc je joue sur le double sens du mot.
Bien sûr. Bon, vous avez pratiqué en autofiction ces sites de rencontres, et ça vous a apporté le matériau qui vous permet de dire... Alors, le texte que vous avez écrit, c'est vous qui le prononcez ou votre collègue musicien l'utilise dans ses chansons?
Alors non, c'est moi qui dis le texte que j'ai écrit.
Oui.
Et dans le texte, il y a les chansons.
Et dans le texte, il y a les chansons. D'accord.
Qui sont chantées par Sébastien.
Ils sont chantées par Sébastien. Très bien. Alors, comment avez-vous travaillé? Vous êtes les noms que j'ai cités, c'est toute l'équipe de la Sœur de Shakespeare?
Alors oui, il manque aussi Émilie Cerniaud qui est régisseuse lumière, Éric Ferrer qui est régisseur plateau, ce sont des postes très importants parce que c'est eux qui
sont en
tournée.
Bien sûr.
Et un poste aussi très important dont on parle pas beaucoup, c'est Sandrine de Kettler, qui est chargée de production.
Oui.
Donc, qui s'occupe de tout ce qui est financier, l'organisation des dates, etc.
Et oui, et c'est une question importante. Alors, vous vous appelez, bon, j'aime bien beaucoup Virginia Woolf, ça, vous avez appelé votre compagnie, la sœur de Shakespeare, en hommage à Virginia Woolf dans une chambre à soie, c'est ça?
Tout à fait.
Bon, alors, la question que je voulais vous poser, bon, vous avez fait votre formation, vous êtes né en Corrèze?
Oui.
Vous êtes né en Corrèze. Vous êtes né où en Corrèze?
Je suis né à Tulle.
Sens. Alors, vous avez fait plein de choses, je ne vais pas vous demander de raconter votre biographie, mais votre première pièce a compté beaucoup dans votre vie, puisque c'est avec Emma Georges, et finalement vous êtes quitté ensuite, vous avez créé une pièce qui s'appelait, le texte d'Emma Georges s'appelait « À combien carreaux de la marge ?» C'est un texte scolaire.
Dans la forme, c'est pas du tout scolaire. En fait, Emma Georges, c'est toujours d'ailleurs une amie qui n'était pas du tout autrice et qui un jour m'a dit « Écoute, j'ai écrit des morceaux de trucs, est-ce que je peux te les envoyer ?» Et il se trouve que j'ai reçu comme ça des fragments, un texte qui était composé, oui, de fragments, à l'intérieur desquels il y avait des espèces de séquences, il y avait des poèmes. Et j'ai trouvé que ce texte était un merveilleux portrait de femme, comme on n'en a pas beaucoup. Et donc, ce texte qui n'était pas du tout fait ni pour être diffusé, ni pour être... qui n'était pas écrit pour le théâtre, en fait, j'ai décidé de le monter. Et donc, ce qui a été aussi une très belle aventure, parce que Emma Georges, suite à ce texte-là qu'on a structuré ensemble, etc., qu'elle a continué à travailler dessus, est devenue lauréate de la SACD Beaumarchais. Donc, a eu une reconnaissance d'autrice, en fait.
Très bien.
Et en fait, oui, ça a été un spectacle assez charnière, parce que c'est par ce texte-là aussi j'ai commencé à travailler avec la metteuse en scène Gonaëlle Mendonça, où on a co-dirigé la compagnie. Oui, c'était déjà une écriture contemporaine et une écriture de femme assez costaud, je dirais.
Et vous avez...
Ce qui est merveilleux avec l'autofiction, c'est ce que j'ai découvert, parce que c'est une écriture, une forme d'écriture qui s'est imposée à moi, en fait, sur la précédente création, parce que j'ai pas eu le choix. Et donc, ça, c'est génial, parce que d'un coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai trouvé un langage que je vais développer. C'est que, en fait, si on est au bon endroit pour parler de soi, en fait, on parle des autres. Et ce qui est merveilleux, c'est que généralement, à la fin des spectacles, quand les spectateurs viennent me voir, ils me parlent du spectacle, mais ils me parlent surtout d'eux. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais raconté leur histoire.
Eh oui.
Donc, c'est en prenant comme ça une chose très intime, très singulière, ce que j'ai réalisé, c'est que si on est au bon endroit de la parole, c'est-à-dire que je viens pas pour raconter ma vie, c'est pas ça le but, mais c'est pour raconter quelque chose qui appartient en fait à l'humain, en fait, ça devient totalement universel. Donc, c'est ça que je cherche. Et peut-être là, on parle très sérieusement des choses, parce qu'il y a un fond, il y a un propos, mais ce que je cherche aussi, c'est l'humour. C'est-à-dire, quand je parle de l'endroit de la parole, c'est-à-dire que quelqu'un qui raconte sa vie sur scène, a priori, ça n'a pas un énorme intérêt. Donc, il faut trouver le bon endroit pour raconter. Donc, je me suis rendu compte qu'avec l'humour, c'est une espèce d'élégance, parce que je pense que ce que je raconte, en fait, ce sont des tragédies. C'est-à-dire que ce spectacle parle d'amour, on sait que la plupart des histoires d'amour sont tragiques.
Bien sûr.
Le spectacle précédent parlait de l'injonction à la réussite, mais comme il y a un ton, il y a beaucoup d'humour, en fait, il y a beaucoup d'autodérision, ça permet de parler de choses très graves, très profondes, et l'humour fait que tout de suite, il y a un lien, en fait, avec le spectateur.
Ouais, et dans votre autofiction, Marilyn regrette-t-elle de ne pas avoir continué sa vie avec Kevin?
Ah, ça c'est une grande question.
Bon, c'est une question qui est posée. Si elle est posée dans Match, je vous demande pas de réponse. Ce sont les spectateurs et les spectatrices qui le découvriront. Bon, j'ai une dernière question à vous poser. Vous parlez d'une chanson. Ça m'a beaucoup interrogé. Et il y a une chanson que murmurait Fanny Ardant dans un film que j'ai vu, comme tous les gens de ma génération, à La femme d'à côté de Truffaut. Est-ce qu'on entend des échos de cette chanson dans votre spectacle?
Non.
Non. Et...
Non, je parlais de Fanny Ardant par rapport à la femme d'à côté, parce que dans la femme d'à côté, elle dit à Depardieu, moi, à la radio, j'écoute pas les infos, j'écoute que les chansons.
D'accord.
Les chansons d'amour, parce que plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies.
Eh oui, c'est exactement ce que dit Fanny Ardant, hein, qui est une comédienne hors ligne et hors pair, et qu'on va pouvoir voir bientôt là sur les scènes,
oui.
puisqu'elle revient en personne un petit peu âgée, trouvant peut-être l'amour avec quelqu'un de plus jeune, ce qui est un thème tout à fait normal, intéressant, et pas extraordinaire ni stupide, comme on a pu le dire autrefois. Hein. Bon, c'est clair. Bon, la lumière dans votre spectacle, c'est ma dernière question, la lumière dans votre spectacle compte beaucoup, parce que le cinéma vous intéresse aussi.
Oui, le cinéma m'intéresse, par rapport à, forcément c'est une influence, parce que quand on écrit, on cherche plein de, on a des références comme ça, où on a des images, donc le cinéma m'intéresse par rapport aux images qui produit, et puis la musique, comme j'en ai déjà parlé, et puis évidemment la lumière, comme pour moi la scénographie, le décor, c'est aussi beaucoup la lumière.
Oui. Oui. Bon, est-ce que c'est l'ultime et stupide dernière question, quel texte de Virginia Woolf recommanderiez-vous à vos spectatrices, à vos spectateurs? Une chambre à soi?
Comment?
Une chambre à soi, par exemple?
Alors, évidemment, une chambre à soi. Après, tout est très beau. Ben là, Mrs. Dalloway a été retraduite.
Eh oui.
Par Nathalie Azoulay, et je l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est très intéressant. Et après, tout Virginia Woolf, et il y a aussi un très beau film, parce que Virginia Woolf, c'est pas forcément très facile à appréhender comme écriture, mais
c'est
pour
vrai.
Donner envie, il y a le film The Hours,
oui.
Qui est vraiment un très beau film où qui parle de trois femmes comme ça, de trois parcours.
Vous êtes sans doute une lectrice très. Merci beaucoup, Marilyn, et j'espère que le public sera avec vous. Ce jeudi à 20h au Champ de Foire, et je rappelle que le Champ de Foire, pour les Bordelaises et les Bordelais qui nous écoutent dans la métropole, le Champ de Foire n'est pas plus loin que Saint-Médard-en-Jalles et le Carré des Colonnes.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.